Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un livre événement dont nous allons parler ce matin, un dictionnaire sur Jésus. Les deux mots ne semblent pas a priori fonctionner ensemble, tant l'on identifie la vie de Jésus pour le grand public à son message. Et pourtant, preuve que cela n'est pas tout à fait juste, depuis plus d'un siècle, des religieux dominicains travaillent en Terre Sainte au sein de ce que l'on appelle l'école biblique de Jérusalem et font ce que l'on appelle aussi un travail historico-critique en clair. Et selon leur formule, ils travaillent à unir le monument au document, un travail considérable, fort peu connu du grand public, que notre invité de ce matin a voulu porter sur la personne de Jésus à la connaissance du plus grand nombre. Un grand défi. Dictionnaire Jésus, le livre événement, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, l'un de ses co-auteurs, Renaud Sy, vous êtes religieux dominicain, prêtre, et vous avez assuré la direction de la publication de ce dictionnaire Jésus, c'est donc son titre, publié en partenariat avec l'école biblique de Jérusalem et paru aux éditions Bouquin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Donc c'est un livre qui donne lieu à une couverture nationale, je le dis au passage. On avait pu lire il y a quelque temps dans le Figaro magazine un 6 ou 8 pages, ce n'est pas rien, avec ce titre « Les explorateurs de la Bible ». C'était l'occasion donc de mettre un coup de zoom sur l'école biblique de Jérusalem et vous me disiez avant l'émission que vous aviez eu d'autres presses comme cette semaine, entre autres Valeurs Actuelles. Alors ce livre, c'est un livre roboratif. C'est donc un dictionnaire, je n'ai pas compté le nombre de pages, mais il y a de quoi se promener. Il y a de quoi se promener quoi ? Dans la vie de Jésus, vous diriez, pour commencer, tout simplement, ou dans les Écritures en général ?
En fait, la vie de Jésus, c'est une porte d'entrée dans une tradition immense que Jésus récapitule, qu'il intègre en lui-même et à laquelle il donne une portée en quelque sorte définitive. Donc... Ça correspond. Enfin, on a voulu donner un petit peu quelque chose, l'impression qu'ont pu avoir les apôtres lorsqu'ils entendaient le Christ parler. Et derrière Jésus, il y avait tout un monde qui s'ouvrait, à la fois avant lui et après lui. De sorte que, bien entendu, que entrer dans la vie de Jésus, c'est en fait faire une expérience du monde aussi. Une expérience de Dieu, une expérience de soi-même. Une expérience de la culture, de la morale, de l'espérance, même parfois, je ne sais pas, de l'art aussi. Donc Jésus, c'est un personnage qui a une ampleur considérable. Hein, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a, avec des moyens aussi simples que ceux qu'il a employés, il a marqué pour toujours le devenir de l'homme. Donc il ne faut pas s'interdire a priori de le suivre jusque là où il veut nous mener.
Alors ça commence comme ça, en tout cas il y a une préface assez conséquente. On va s'arrêter dessus au début de cette émission. Donc vous commencez par dire Jésus est une énigme, et c'est une énigme qui mérite, semble-t-il, largement ce dictionnaire et puis le travail de l'école biblique de Jérusalem. On y reviendra. Commençons quand même par un petit mot à propos de l'école biblique de Jérusalem pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément. Donc cette école qui a été fondée par un dominicain, hein, le père Marie-Joseph Lagrange, c'était à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui vivent à peu près 20 frères, donc à Jérusalem même, 20 frères dominicains. Comment vous résumeriez, c'est quoi ? C'est un haut lieu d'études de la Bible avec cette formule, donc cette formule allier unir le monument au document.
Oui, le père Marie-Joseph Lagrange, dominicain de Toulouse, il faut le mettre à l'honneur dans cette bonne ville, avait fondé l'école parce qu'il constatait un certain retard scientifique des études catholiques sur la Bible par rapport aux études protestantes ou non confessionnelles. Et comme il disait lui-même, il ne faut pas opposer des arbalètes aux canons de nos adversaires. Donc devant des gens qui maîtrisent toutes sortes de sciences en pleine expansion, l'archéologie, l'histoire, la connaissance des langues, des civilisations, eh bien, il fallait opposer il fallait utiliser ces armes-là, mais à bon escient, vraiment pour valoriser les Écritures et pas simplement pour les déconstruire et les réduire, enfin, les mettre en poussière. C'était vraiment ça le projet du père Lagrange, c'est-à-dire donner un supplément d'âme aux Écritures par rapport à une étude purement scientifique, et ainsi retrouver par là une intelligence complète de la révélation telle qu'elle est transmise dans l'Église, hein, de cette tradition dont l'Église a la garde.
Alors ça commence justement un petit peu comme ça, votre ouvrage, c'est que vous mettez en garde à vous lire contre une certaine manière. Alors on sent que derrière il y a des grandes allusions d'aborder la vie de Jésus et l'histoire du christianisme aujourd'hui et puis en général, on va dire depuis le milieu du 19e siècle. Vous dites la chose suivante: les uns accumulent une base documentaire considérable pour éclairer le contexte de Jésus de Nazareth, les autres élaborent des reconstitutions hypothétiques. Bref, vous laissez entendre qu'en fait, avoir une approche purement entre guillemets scientiste, c'est pas la bonne manière d'approcher la vie de cet homme. Ai-je bien compris?
Oui. Alors, nous avons distingué l'histoire tradition et l'histoire reconstitution. Pendant très longtemps, faire de l'histoire, c'était écrire une tradition. Et ça vient d'ailleurs même déjà des historiens grecs, poursuivis par les latins, et aussi, nous le montrons dans le dictionnaire, c'est l'œuvre même des évangélistes. C'est-à-dire que, dans l'absolu, l'histoire doit être faite par les contemporains qui ont vécu et ont participé aux événements, et lorsque leur mémoire commence à s'effacer, ils composent un ouvrage écrit qui constitue une tradition, c'est-à-dire une base définitive pour connaître ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas connaître les événements sans se mettre dans les pas de ceux qui les ont, qui ont été les premiers témoins. Cette méthodologie met en valeur les témoins oculaires qui, en mettant leur témoignage en forme selon des règles et des normes précises, lui donnent une sorte de portée définitive. Les évangélistes se sont inscrits dans cette méthode-là, tout comme l'avait fait plusieurs siècles avant eux Thucydide ou Polybe, ou comme le fait après eux Tacite. Bref, c'est la manière dont habituellement on faisait l'histoire jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on a commencé enfin, ça a commencé un petit peu avant, mais ça a été appliqué à la Bible au XIXe siècle, l'histoire reconstitution, c'est-à-dire poser a priori des critères qui décident a priori, encore une fois, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est réel et ce qui est imaginaire, et armé de ces critères, eh bien, on les applique sans discernement sur le texte que du coup on déconstruit.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple et de l'incidence, on va dire, grave que ça peut avoir que de procéder de la sorte?
Je donne il y a un critère très célèbre pour savoir si les évangiles sont historiques, qu'on appelle le critère de dissemblance. Et on dit que les paroles authentiques de Jésus, ce seraient celles que l'on ne pourrait pas trouver dans la tradition juive qui le précède, ni dans la tradition chrétienne qui est après lui. Parce que si on peut attester l'existence de tel ou tel enseignement de Jésus avant lui ou après lui, ça veut dire que en fait, ça a été inscrit dans les évangiles à partir d'autres d'éléments extérieurs. Et donc, ce ne sont pas des paroles authentiques de lui. Et dans ces conditions, si vous voulez, alors on élimine des évangiles toutes les paroles de Jésus qui sont considérées comme étant des citations de traditions qui l'entourent. On arrive ainsi à faire un Jésus qui n'est plus ni juif ni chrétien et qui est en fait une espèce de satellite qui flotte en l'air auquel on prêterait des idées originales. Or, c'est une méthodologie qui est complètement fausse, puisque Jésus n'a jamais prétendu être original. Il a prétendu, au contraire, récapituler tout ce qui venait avant lui.
Et pardon d'aller jusque-là, mais du coup, pour nous, entre guillemets, au bout de la chaîne, l'incidence, quelle est-elle? C'est qu'on finit par avoir, en fait, des ouvrages scientifiques entre les mains qui jettent le doute sur ce qu'a dit Jésus ou pas, et sur la conscience qu'il avait de ce qu'il proposait, c'est ça?
Oui, parce que, si vous voulez, ces critères ont tendance à déconstruire le texte, à ne retenir que certains éléments qui sont valables selon les critères qu'on a posés, qu'on a déterminés, et du coup, à partir de là, on reconstitue qui il aurait pu être. Et ce genre de reconstitution aboutit à des figures absolument contradictoires. Chez un tel, ça donnera un Jésus révolutionnaire, chez d'autres, au contraire, une sorte de hippie. Chez d'autres, ça donnera un moraliste. Chez d'autres, ça donnera un réformateur religieux. Enfin bref, vous avez dans la mesure où ce sont les critères qui déterminent ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas, eh bien, c'est la manière dont vous réglez vos critères qui va en fait déterminer le résultat auquel vous parvenez. Et c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qui se veulent et se prétendent scientifiques sur Jésus.
On ne donnera pas de nom par délicatesse, mais vous m'en avez cité quelques-uns hors antenne qui sont publiés, entre autres, récemment. Alors, il y a une autre mention qui rejoint un peu ce que vous dites par rapport à cette différence entre histoire-reconstitution et histoire-tradition. C'est que vous laissez entendre, vous le dites toujours dans votre préface, c'est une question de bon sens, par méthode. L'historien doit entrer dans une certaine sympathie avec son objet. Voilà, il n'y a pas de comment dire, on met pas de gel hydroalcoolique, et j'ai envie de dire de manière très triviale, entre l'auteur et ceux qui l'étudient. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de la Bible en ses traditions. Donc il y a un immense projet, je pense que c'est vraiment le terme qu'on peut utiliser, de l'école biblique de Jérusalem. Quel est-il pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler?
C'est un peu la mise en œuvre de ce que nous venons de dire à l'instant. La Bible dans ses traditions, c'est un projet scientifique, parce qu'une institution comme l'école biblique doit avoir un gros projet qui la mobilise et qui lui permette aussi d'associer des chercheurs extérieurs, donc européens, américains, africains, enfin que sais-je, de partout, qui sont intéressés par quelque chose, un projet d'envergure. Et l'idée étant que la Bible... c'est le livre des livres, pour la comprendre, on doit à la fois la situer dans son contexte, la comprendre telle qu'elle est, et puis aussi la comprendre à partir de ce qu'elle a produit. Parce que la Bible est le produit d'un monde, hein, qui est le monde sémitique, juif, enfin de l'Antiquité, mais la Bible a aussi produit un monde, parce que la Bible est une matrice de culture, de religion, d'art, de toutes sortes de domaines. Et nous avons cette conviction que on peut connaître les causes à partir de leurs effets.
Alors juste décrivez le projet, peut-être, pour commencer.
Alors le projet, c'est très simple, ça consiste à créer une base de données qui est délimitée en une vingtaine, 25 critères à peu près. Il y a texte, contexte et réception. Le texte, c'est la Bible elle-même. Le contexte, c'est du coup les repères historiques, géographiques, ethnographiques parfois aussi, qui sont nécessaires pour comprendre les textes. Et puis la réception, c'est-à-dire justement ce texte biblique a engendré, alors dogme, théologie, parfois philosophie, également liturgie, enfin bon, il y a même de la danse parfois.
De l'art, c'est ça, hein.
De l'art, exactement, il y a beaucoup d'iconographie évidemment. Hein,
donc statues, c'est dans le fond tout ce qu'on peut dire sur la Bible et tout ce qu'elle a produit culturellement presque.
Voilà. Alors, du coup, après, évidemment, c'est tellement énorme qu'il faut, il faut avoir des critères un petit peu sérieux pour déterminer ce qui convient. Et donc, la Bible dans cette tradition consiste d'abord dans une annotation verset par verset. Et donc, il faut essayer quand même de chercher le rapport le plus étroit entre la manière dont on annote et le verset que l'on est censé commenter.
Donc, demain, on pourra aller sur la Bible en ses traditions via l'école biblique de Jérusalem, et pour un verset, avoir en fait tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout le travail historico-critique qu'on peut faire et tout ce que ça a produit culturellement.
Tout à fait. Par exemple, alors la base de données telle qu'elle est, elle est difficile à consulter pour le grand public. Mais l'idée, c'est de la rendre accessible à travers un rouleau numérique qui est en cours de développement. Alors en fait, l'idée, c'est, vous voyez, il y a, comme les Bibles anciennes se présentaient non pas sur des livres, mais sur des rouleaux que l'on déroulait pour les lire, eh bien en fait, on ferait défiler le texte de la Bible, et avec toute une galerie d'appels de notes autour qui permettent de faire apparaître les notes de vocabulaire, de grammaire, de procédés littéraires, les notes d'iconographie, de littérature, enfin que sais-je, vous voyez, c'est ça. C'est un cours de développement, ça pose des problèmes techniques, mais il y a aussi d'autres manières d'utiliser cette base de données de la Bible dans ses traditions, et le dictionnaire en est une. Puisque le dictionnaire, c'est véritablement, il est d'une certaine manière la réalisation en dictionnaire de la Bible dans ses traditions sur Jésus.
Autour de la figure de Jésus, en fait. Vous êtes borné à ça.
Exactement, oui.
Allez, on va faire une première pause et puis on va se plonger dans cet ouvrage. On s'arrêtera donc à quelques entrées, en l'occurrence le début, je crois que c'est la première, il me semble, Abba. On s'arrêtera sur Marie-Madeleine et sur les épouses de Jésus, non pas qu'il y ait un lien de cause à effet, mais ça c'est pour dire que l'ouvrage aborde aussi des questions traitées largement dans la presse parfois, et on parlera aussi de la vie éternelle.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Dictionnaire Jésus, le livre événement, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, Renaud Sille, religieux dominicain, prêtre, et donc qui a assuré la direction de l'ouvrage dont on parle ce matin, Dictionnaire Jésus, paru aux éditions Bouquin. Livre donc, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, publié en partenariat avec l'École biblique de Jérusalem, ce haut lieu français d'études des Écritures. Alors maintenant qu'on a posé un petit peu le décor, peut-être qu'on y reviendra hein, sur les principes qui ont présidé à la rédaction de cet ouvrage. On l'ouvre et je vous propose donc de nous arrêter tout simplement sur le début, Abba. Alors, la première chose que l'on trouve, c'est déjà, d'une certaine manière, un renvoi vers ce que les Écritures disent ou rapportent de ce mot qu'est Abba. On peut lire les évangélistes Paul écrivant en grec mais conserve l'araméen pour donner à connaître en cette adresse le trait le plus personnel de la prière de Jésus. Et puis un peu plus loin, en Romains 8:15 et en Galates 4:6, cette prière et cette invocation sont animées par l'Esprit. Peut-être arrêtez-vous sur le début, il y a même des tirets. Quel est le propos là en fait? C'est de faire une synthèse des moments où a été prononcé ce mot.
C'est providentiel, mais commencer un dictionnaire Jésus par mon père, et dans la forme même que Jésus employait pour le dire, c'est très émouvant. Abba, c'est pas seulement un groupe de musique pop célèbre des années 70, c'est quelque chose qui a tellement marqué les auditeurs de Jésus qu'ils l'ont gardé, donc à la fois dans les évangiles et chez saint Paul, qui est indépendamment d'ailleurs. Parce que par là, Jésus signifiait le propre de sa filiation par rapport à Dieu. Saint Paul, par exemple, a beaucoup étudié, développé la notion de filiation adoptive, c'est-à-dire que par grâce, nous devenons fils adoptifs de Dieu, nous devenons ses enfants, nous pouvons l'adresser à lui comme à notre Père, hein, d'où la prière que Jésus nous enseigne, par excellence, le Pater. Mais Jésus, lui, n'a pas bénéficié d'une filiation adoptive, mais d'une filiation naturelle. Il n'a pas d'autre Père que Dieu. C'est pour ça que, quand il s'adresse à Dieu, il dit « mon Père ».
Alors juste, si vous arrêtez sur la méthodologie, donc là, vous commencez donc par des tirets, parce qu'il s'agit de renvoyer donc à quoi au passage ou aux principaux éléments que vous voulez donner à connaître autour de Abba.
Alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, parce qu'il faut bien montrer quelle est pourquoi ce terme et pourquoi est-ce qu'il est tellement mis en valeur, hein, au milieu d'écrits grecs. Pourquoi d'un seul coup, vous avez un mot araméen qui apparaît? Donc, il faut bien en rendre compte. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a voulu le préserver tel quel? C'est vraiment parce qu'il synthétisait quelque chose de personnel, de propre à Jésus. Et qui dit justement le fait qu'il n'a pas d'autre père que Dieu.
Alors, si on avance dans la lecture, on apprend des choses, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a été mon cas. Il faut écarter l'explication par le babillage, parce qu'en fait, à vous lire, en fait, en général, on a en tête que Jésus s'est adressé à son père comme un enfant s'adresse quelque part à son père, et que Abba, ça serait papa. Et ben non, à vous lire, Abba est un mot du vocabulaire adulte, dites-vous, et vous ajoutez, ni l'hébreu ni l'araméen ne possède de mot équivalent à la nuance de papa. Alors, ça veut dire que, en fait, l'idée qu'on se fait n'est pas juste, en l'occurrence?
Si vous voulez dire papa, moi, ça ne me dérange pas. Hein. C'est que Jésus ait dit à Dieu papa, pourquoi pas? Simplement, ce n'est pas exactement le sens du mot, vous voyez? C'est parce que dans papa, il y a évidemment toute une tendresse, une confiance, et puis aussi l'unicité de la relation entre un père et son fils. Bon, donc de ce point de vue-là, rien n'interdit à Jésus d'avoir appelé Dieu papa. Mais en revanche, si on veut être rigoureux, c'est pas exactement le sens du nom, du mot en araméen.
Alors c'est quoi?
Voilà, ce serait mon père. Et ça, du coup, ça correspond bien à ce que l'on a par exemple au matin de Pâques, lorsque Jésus dit à Marie-Madeleine, je monte vers mon père et votre père. Et il distingue bien, il est votre père à tous par la filiation adoptive, mais il est mon père à moi seul par la filiation naturelle. Et d'ailleurs, ça rejoint exactement la demande des apôtres qui lui demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus dit, lorsque vous priez, vous direz notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'il s'exclut lui-même de cette prière-là. Le Pater n'est pas la prière de Jésus, parce que c'est la prière, c'est la nôtre. Sa prière à lui, non, c'est pas grand-chose, sinon qu'il disait Abba. Puis après, il y a aussi quand même des prières qui sont détaillées dans les évangiles.
Alors, oui. Pardon Renaud-Silly, mais on va dire le vulgum péquin chrétien de base, hein, comme moi ou comme d'autres, est persuadé qu'en araméen, ça veut dire papa. Donc, il faut en fait faire partie de l'école biblique de Jérusalem et puis lire cet ouvrage pour se rendre compte qu'en fait, on se trompe d'une certaine manière.
Je ne dirais pas qu'on se trompe, parce que se tromper, ça veut dire qu'on dit quelque chose de faux. Or, ce n'est pas faux, c'est imprécis. Et du coup, vous voyez, la nuance n'est pas la même, parce que, en fait, dans les formes hébraïques ou araméennes, construisent d'une façon le possessif d'une manière très spéciale. Et donc, Abba, ça veut dire mon père. Et donc, de ce point de vue-là, Jésus revendique par là la particularité de sa filiation à lui. Ce qui est moins audible si on dit papa. Oui. C'est pas que papa est faux, c'est pas vrai. Hein. Papa, ce serait juste aussi. Et ceux qui ont traduit comme ça ne se trompent pas. Simplement, il manque cette nuance qui est très importante pour l'élaboration du dogme, hein, par la suite, qui permet de dire que Jésus est le fils unique du Père.
Et puis vous rappelez dans ce premier article donc de ce dictionnaire Jésus que c'est aussi cette prétention qui est le cœur du conflit qui se joue avec les autorités de Jérusalem. Alors, je vous propose qu'on avance et qu'on commence. Alors, preuve que le dictionnaire aussi ne fait pas l'économie de répondre aux interrogations contemporaines, même si on sent parfois dans votre plume un petit peu de, comment dire, de, voilà, non pas de la moquerie, mais enfin, vous taquinez ce type de réalité. Donc, il y a une lettre, épouse de Jésus. Jésus convole dans plusieurs fictions à succès, dites-vous. La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, 1980. Et donc dans le Da Vinci Code plus connu. Vous dites que le dossier historique de Jésus marié est plus que mince, voire... Alors là, je ne connaissais pas ce mot, moi je le traduirais par rachitique. Vous avez tenu donc on va dire, à faire face à cette question. Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut en dire?
L'épouse de Jésus, en effet, ça a eu beaucoup de succès, hein, le Da Vinci Code, après la descendance de Jésus et Marie-Madeleine, qui seraient les rois de France, d'après Dan Brown. Enfin bon, évidemment, c'est un roman.
C'est un roman que beaucoup ont pris au pied de la lettre.
Oui, beaucoup, quand même, exactement, de surtout, il y a eu des sondages faits, je ne sais plus, je crois que c'était en Allemagne ou en Angleterre, qui est Marie-Madeleine, je ne sais plus, 60% des gens répondaient, c'est l'épouse de Jésus. Et alors, ils répondaient à partir de ce qu'ils savaient, depuis le Da Vinci Code, vous voyez, c'est-à-dire que ce genre de choses, ça se répand comme ça. Alors, donc il faut se poser la question, hein, puisque beaucoup de gens croient que Marie-Madeleine est l'épouse de Jésus, bah, il faut y répondre, est-ce que Jésus avait une épouse? Et là, c'est intéressant pour le coup de tracer la genèse de cette notion. Alors, on pourrait dire, que, n'est-ce pas, que dans la mentalité bourgeoise contemporaine, quelqu'un n'est pas totalement achevé s'il n'est pas marié, vous voyez. Et donc, à ce titre-là, Jésus devait l'être, et puis Marie-Madeleine aussi.
C'était pas le cas dans le monde juif?
Eh bien,
on pouvait être un homme accompli sans être marié?
Ah ben oui, la preuve, Jésus, lui-même, ou certains disciples qu'il a appelés. C'est une tradition postérieure qui a fait une obligation aux Juifs de se marier. C'est une tradition qui est peut-être justement en réaction au christianisme naissant, qui lui valorisait aussi la virginité ou le célibat consacré. On a pris au pied de la lettre comme un commandement la parole de Genèse 1, « Croissez, multipliez-vous ». Mais ce n'est pas un commandement dans la Bible, c'est une bénédiction. Dieu bénit le couple en lui promettant d'être fécond. Mais en revanche, il ne fait pas une obligation de se marier.
Alors, ce que vous dites à propos aussi des... Pardon de vous, peut-être de vous couper la parole, mais à propos de dans ce court chapitre, enfin, cette entrée épouse de Jésus, c'est que c'est aussi... c'est une gnose, vous ajoutez la chose suivante, c'est le signe d'un attrait contemporain pour les spiritualités parallèles qui confère donc une certaine crédibilité à des mythes ésotériques. Bref, vous parlez pas mal de la gnose. C'est quoi la gnose?
Alors... La gnose, c'est en fait, on peut dire que c'est une des premières réceptions de l'évangile en dehors de l'Église. Jésus a institué un groupe qui devait transmettre sa mémoire de façon authentique avec les apôtres, qui devait en fait être vraiment les réceptacles de sa parole. Et puis, pendant pratiquement un siècle, l'évangile n'est pas sorti des limites du groupe que Jésus avait institué. Et au deuxième siècle, l'évangile a commencé à être connu en dehors de ces groupes qui avaient la charge de maintenir l'interprétation authentique. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'on voit pulluler des groupes qui disent « Ah bah disons que l'évangile c'est sympa, c'est intéressant, il y a des belles leçons de morale et tout ». Et simplement, en s'affranchissant de la notion d'orthodoxie, eh bien, l'évangile a commencé à produire des espèces de fruits étranges. Hein, et ce sont ces écrits gnostiques qui, du coup, réinterprètent la figure de Jésus selon des catégories qui sont extrinsèques à sa personne.
Est-ce qu'il faut mettre dedans les évangiles, ce qu'on appelle les évangiles apocryphes?
Alors, ça dépend lesquels. Parce qu'il y a certains apocryphes qui sont des
parce
textes...
C'est dans cela que, parfois, oui. Marie-Madeleine est présentée comme...
Là, il faut faire attention. Si vous voulez, c'est que certains apocryphes sont des textes chrétiens anciens tout à fait vénérables, mais qui n'ont pas été retenus comme étant vraiment des textes canoniques, hein, c'est-à-dire bénéficiant du charisme de révélation. On pense par exemple au protévangile de Jacques, qui parle par exemple de la consécration de la Vierge au Temple, ou de sa virginité perpétuelle. Enfin bon, c'est un texte qui est tout à fait bien, tout à fait, je veux dire, enraciné dans une tradition chrétienne, mais qui n'est pas canonique. Après, il y a d'autres apocryphes, qui sont, là pour le coup, vraiment des divagations sur Jésus selon des, vraiment des critères complètement extérieurs, en le réinterprétant à la lumière de mythes, de conceptions religieuses orientales, assez étranges. Et alors, on connaît beaucoup mieux cette littérature depuis 1945, lorsqu'on a trouvé en Égypte toute une bibliothèque d'écrits gnostiques. La Pistis Sophia, ce sont des textes absolument fascinants qui re-racontent l'évangile, mais de façon à leur sauce, quoi. Voilà. Simplement, ces écrits datent pour les plus anciens de la deuxième moitié du deuxième siècle, pour la plus grande partie du troisième siècle et du quatrième siècle. Et donc, ce sont des textes qui n'ont pas de continuité par rapport à l'enseignement de Jésus.
Alors justement, j'allais revenir au début, vous avez fait une distinction donc, entre l'histoire reconstitution, qui serait, ouais, à vous entendre, un peu une espèce de maladie contemporaine, hein, et puis l'histoire tradition. Prenons l'exemple des évangiles apocryphes, exemple relativement, on va dire, grand public. Là, où est le problème quant à la tradition? C'est qu'ils n'en sont pas... Il y a une rupture par rapport aux témoins directs, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est qu'il n'y a, a pas de continuité entre l'enseignement de Jésus et les apocryphes. C'est-à-dire que les apocryphes répercutent l'enseignement de Jésus à partir de bribes entendues par-ci, par-là. Et ils en connaissent quelques bouts, comme ça. Et donc, à partir de là, on reconstitue, d'une certaine manière, la gnose, c'est la première reconstitution de l'histoire de Jésus, selon des critères qui ne sont pas ceux de Jésus lui-même.
Et c'est pour ça que la plupart n'ont pas été pris, ont été considérés comme, oui, des textes...
Oui, mais la réellement... question ne se posait même pas, si vous voulez. C'est que ces textes-là sont nés dans des environnements qui étaient extérieurs à la grande Église, c'est-à-dire à l'Église apostolique. Et donc, ils ont été... Il n'a jamais été question de les intégrer dans le canon. Vous voyez, c'est que le canon des Écritures, c'est pas une décision qu'on a prise du jour au lendemain. Le canon des Écritures, ce sont des textes qui ont servi de base à la liturgie, à l'expression de la foi dans les églises fondées par le Christ. Dans l'église fondée par le Christ et puis par ses successeurs. Les écrits gnostiques se sont développés dans des univers totalement différents. Qui ont été à une époque très nombreux. Et ça, pour le coup, c'est le fruit de recherches contemporaines, que certainement il y a eu une époque où les chrétiens gnostiques étaient plus nombreux que les chrétiens catholiques.
Je vous propose qu'on avance. Et... Alors, il n'y a pas de lien de cause à effet. Je veux, choquer personne. Mais après, donc, l'épouse supposée de Jésus, on va parler de Marie-Madeleine. C'est un des chapitres les plus importants, enfin, une des entrées les plus importantes. Pourquoi?
Eh bien, parce que Marie-Madeleine...
Vous teniez à ce que je vous pose cette question, allez, je l'avoue,
voilà,
auprès des auditeurs.
Marie-Madeleine, c'est le témoin par excellence du Christ. Et alors, c'est tout à fait intéressant parce que dans l'évangile de Saint Jean, il y a bien un disciple bien-aimé qui rend témoignage, qui a composé l'évangile, le quatrième, qui nous donne en quelque sorte une tradition, pour le coup, stable, pérenne. Bon.
Ça, pour le coup, on le sait que Marie-Madeleine, c'est le témoin par excellence, non?
Voilà, mais oui, mais on le comprend souvent assez mal. C'est très intéressant de voir que dans le quatrième évangile, à côté du disciple bien-aimé, qui est en tout cas l'apôtre Saint Jean peut-être, en tout cas celui qui nous a transmis le quatrième évangile, il y a aussi une femme qui est d'une certaine manière le témoin par excellence, d'une manière différente. Le disciple bien-aimé, c'est celui qui a écrit, qui rend témoignage, qui a vu. Alors que Marie-Madeleine, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a expérimenté de l'intérieur, et presque la première, le fruit même de la prédication de Jésus. Marie-Madeleine étant, c'est ce que nous défendons, cette position n'est pas acceptée par tout le monde, mais c'est ce que nous défendons, la pécheresse convertie chez Saint-Luc... C'est Saint-Luc, elle ne porte pas de nom, mais vous connaissez l'épisode tous. Elle vient, elle verse sur les pieds de Jésus un parfum.
Elle l'essuie avec ses cheveux.
Bon. Donc cette femme, c'est une pécheresse à laquelle Jésus a dit « Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. » Ce geste qu'elle pose à ce moment-là est un geste qui est presque en quelque sorte le résumé de l'évangile. C'est-à-dire que comment est-ce que on est restauré dans l'amitié avec Dieu ? C'est par l'amour que l'on voue au Christ, et cet amour qui est tel qu'il efface tous les péchés.
Mais on aussi dit ça, il n'y a pas besoin d'un dictionnaire Jésus pour le découvrir. Du coup, quel est peut-être...
Heureusement qu'il n'y a pas besoin, parce que les gens ont pu se sauver avant que ce dictionnaire soit écrit. Hein. Ça, je ne vous le fais pas dire. Simplement...
Non, je vous taquine un petit peu, pardon, hein, c'est eu égard à mes très faibles connaissances par rapport à cet ouvrage absolument remarquable. Par moment, à vous lire, on a l'impression qu'il y a comme une dimension un peu catéchétique dans cet ouvrage. Je force un peu le trait, hein. C'est-à-dire que ça pourrait peut-être surprendre certains qui vont l'acheter derrière. C'est pas un résumé pour chaque point des dernières recherches de l'école biblique de Jérusalem sur, par exemple, Marie-Madeleine. Qui était-elle je sais pas, où est-ce qu'elle vivait
Oui, bien sûr.
Vous ne nous en tenez pas à ça. Pourquoi? Mais non, mais c'est volontaire et ça reste scientifique que de procéder comme tel
Parce que si vous, oui, c'est scientifique parce que tout ce que nous affirmons est fondé. C'est justifié, c'est pas des opinions qui flottent en l'air par-ci par-là. C'est véritablement le fruit, pour le coup, d'une contemplation qui essaye d'aller au fond des choses. Or, nous pensons que c'est vraiment le propos de l'évangéliste que de nous dire Marie-Madeleine est le témoin par excellence parce qu'elle a reçu en elle-même le fruit de la miséricorde du Christ.
Ce qui veut dire que dans votre dictionnaire, c'est pour ça que quand vous parlez Marie-Madeleine, on va y venir après la pause, vous expliquez que c'était pas celle qu'on imaginait déjà, c'était une aristocrate judéo-hellénistique, bref, qu'elle fréquentait la cour d'Hérode, et puis derrière quand même vous nous expliquez au regard des écritures la place qu'elle a eue dans la révélation de la messianité de Jésus, c'est-à-dire voilà. Que du coup vous tenez les deux en fait dans un dictionnaire sur Jésus, là où on s'attendrait à un développement purement historique.
Oui, mais justement, c'est que un développement purement historique sur Marie-Madeleine, ça ne suffit pas. Marie-Madeleine, c'est précisément celle qui nous montre que l'évangile porte des fruits de conversion, des fruits intérieurs. Donc, on trahirait Marie-Madeleine si on en restait à quelques informations de surface. Au contraire, avoir l'intelligence de Marie-Madeleine, c'est de la comprendre comme ce témoin qui a vécu d'une façon tellement forte de la miséricorde et de l'amour du Christ que, ben, en fait... Elle a mis même, d'une certaine manière, le Christ sur la voie de l'offrande de l'amour total. Ça en fait un personnage hors du commun. Hein, et c'est ça, en fait, que l'on cherche lorsqu'on dit maladroitement que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus. On veut donner une espèce de couleur matrimoniale ou nuptiale à l'intensité de cette relation qui les a unis, mais qui n'est pas une relation de mari et de femme. C'est autre chose. C'est une relation qui se joue dans un ordre religieux qui est celui tout simplement de la mission de Jésus qui est de faire miséricorde au monde.
Dictionnaire Jésus, paru aux éditions Bouquin, on fait une deuxième pause et on vous retrouve pour continuer à parler de Marie-Madeleine et de la vie éternelle. Marie-Madeleine, moi j'ai appris beaucoup de choses pour faire un peu de teasing. Restez avec nous et vous allez voir. Thank you.
Présence à Figeac 97.7.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Dictionnaire Jésus, c'est donc pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Dictionnaire Jésus, pardon, le livre événement, avec comme invité Renaud Sy, religieux dominicain, et donc qui assurait la direction de l'ouvrage dont on parle ce matin, donc Dictionnaire Jésus paru aux éditions Bouquin. Si on reste toujours sur Marie-Madeleine, donc vous nous expliquez que Marie-Madeleine, contrairement à l'idée que l'on en a, ce n'est pas donc une prostituée, mais c'est une aristocrate judéo-hellénistique. Qui avait en fait, non pas comme vice d'abord la luxure aussi, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, mais la recherche d'une forme de perfection, et ce à travers un idéal élitiste de la beauté, si j'ai bien compris. Alors qui était cette Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui?
Alors, nous avons une notice très précieuse chez Saint-Luc qui mentionne Marie-Madeleine en même temps que Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode, et Suzanne, en disant que ces trois femmes assistaient le groupe de Jésus, de ses disciples, de leur bien. Donc, à partir de cette notice, on peut inférer que cette femme était riche, puisqu'elle pouvait soutenir le train de vie de toute cette joyeuse troupe qui arpentait la Judée et la Galilée. D'autre part, elle est proche en fait de ces femmes qui sont au premier rang dans la cour de ce roi. C'est pas un très grand roi, mais c'est quand même un roi qui était riche, Hérode. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut inférer du mode de vie de cette femme dans cette cour assez licencieuse?
Alors juste, pardon, vous dites aussi qu'elle était donc de Magdala, qui était une station de villégiature où se délassaient de leurs intrigues sanglantes les courtisans blasés de l'entourage du tétrarque galiléen, qui était donc Hérode.
Et alors, on le connaît avec l'histoire de Jean-Baptiste, bien sûr. Hein. Jean-Baptiste, tout le monde connaît l'épisode où...
On fait danser
Salomé. Et puis, la conséquence, c'est que Jean-Baptiste finit décapité.
Alors, qui était cette femme et que recherchait-elle? Et quelle était, dans le fond, sa misère?
Du coup, forcément, une grande dame comme ça, c'était pas d'abord une prostituée qui faisait le tapin, quoi. Hein. Bon, ça, c'est une vision complètement erronée. En revanche, ce milieu juif qui entourait les Hérodes était juif de nom. Ils étaient très détachés par rapport à l'orthodoxie juive elle-même. Et donc, au contraire, ils étaient très hellénisés. Leur palais, leur mode de vie, tous les témoignages qu'on a par l'archéologie ou par les textes anciens le montrent. C'était la jet set, on pourrait dire. Vous voyez, aujourd'hui, la jet set, qu'elle soit arabe, japonaise ou européenne, elle tend à vivre de la même manière. De la même manière, cette aristocratie de l'entourage des Hérodes vivait comme les grands seigneurs de Rome ou d'Athènes.
Mais avec quand même un idéal pour Marie-Madeleine, non? Alors
oui.
Tendait vers un idéal que vous décrivez qui serait ce qui desséchait le fond de son âme.
Alors le fait, si vous voulez, qu'ils vivent sur un grand pied ne signifie pas qu'ils n'avaient pas une morale. Mais c'était une morale très élitiste, celle des privilégiés de ce monde, tout à fait conforme à la morale grecque, en fait, dans laquelle le but de la vie, c'est l'épanouissement de soi. Un épanouissement de soi qui n'est pas un pur égoïsme, mais qui est l'épanouissement par la recherche de la beauté, de la perfection, de la contemplation, du meilleur. C'est vraiment le programme qui est défini dans le banquet de Platon. Et de ce point de vue-là, le banquet nous dit qu'il y a une forme de rédemption par l'amour, par un amour absolu qui dessèche toutes les facultés de l'âme en la tendant vers la quête du bien total. C'est une voie philosophique de perfection dans laquelle la grâce n'a aucune place, puisque de fait c'est une perfection qui doit consister dans simplement un travail de soi sur soi, et qui exclut justement l'humilité de s'en remettre à Dieu pour nous accompagner dans cette quête du meilleur. Et je pense que les péchés de Marie-Madeleine, c'est ça. C'était d'avoir épousé complètement cet idéal de vie-là.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, je propose qu'on passe à une autre entrée, c'est donc l'entrée la vie éternelle. Alors, vous commencez par ce propos, je ne sais pas si c'est les dernières recherches, on va dire, de l'École biblique de Jérusalem qui permettent de le préciser. Allez non, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vous laisser, on va dire, carte blanche. Au regard des recherches et du propos que vous avez précisé qui est de, comment dire, de ne pas parler de manière aseptisée de toutes ces recherches et découvertes, mais de les mettre dans une perspective de foi. Qu'avez-vous voulu partager dans l'entrée vie éternelle ?
Alors, l'entrée vie éternelle, elle est... vous avez bien fait de la choisir, c'est pas moi qui l'ai soufflé, hein, je peux le préciser, parce que je crois qu'elle elle regroupe, vraiment, elle trahit bien notre propos, c'est-à-dire l'enracinement juif fondamental de l'enseignement de Jésus, avec quand même vraiment ce qui est propre à sa mission, à sa personne, et qui fait que c'est pas réductible non plus à ce qu'il précède.
Puisque donc il y a trois entrées, vous parlez des promesses du Deutéronome à ce sujet, après l'immortalité messianique selon la Septante des Proverbes, et après, quelque part, voilà, de ce que Jésus vient révéler. Alors, de la vie éternelle.
Pourquoi? Bref, c'est parce que la vie éternelle, ça peut paraître quelque chose de très, très flou, très abstrait, la vie éternelle. Or, c'est pour ça qu'il est décisif de partir de l'enracinement dans le judaïsme, de cette notion. Puisque pour le Deutéronome, pour la Bible en général, la vie bonne, c'est la vie qui consiste à observer les commandements de Dieu. Suis les commandements et tu auras longue vie sur la terre que Dieu te donne. C'est comme ça que se termine ce sublime livre du Deutéronome qui dit que tout ce qui arrive à Israël, c'est un effet de l'amour gratuit du Seigneur. C'est déjà l'évangile en quelque sorte, hein, qui est tout à fait présent là. Simplement, pour se maintenir dans l'amour du Seigneur, il faut suivre sa loi. Et en suivant sa loi, on aura une vie réglée et on se rend capable, en quelque sorte, de vivre. C'est à partir de cette matrice-là que Israël a pu approfondir la notion de vie en disant « mais il n'y a pas de raison que cette vie s'arrête avec la mort ». Ceux qui ont été fidèles au commandement, qui les ont observés jusqu'au bout, et c'est pour ça que les martyrs juifs de l'époque des Maccabées, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ont été un moment très important, parce qu'ils se sont dit, ils ont observé la loi jusqu'au bout, or la loi, vivre selon la loi, c'est vivre.
Donc la conscience de la vie éternelle s'est quelque part développée dans le monde juif aussi.
Ah, bien sûr, elle s'est développée à partir de là, mais simplement pas chez les Grecs. L'immortalité de l'âme, c'est une notion qui est anthropologique, en quelque sorte. C'est que c'est une certaine conception de la personne, enfin de l'être humain plutôt, avec son âme et son corps. Le corps est matériel et périssable, mais son âme est immortelle parce qu'elle elle n'est pas sujette au devenir. Donc, d'une certaine manière, dans la philosophie grecque, si j'ose dire, l'immortalité est automatique. Dans le judaïsme, ça ne part pas comme ça. Dans le judaïsme, l'immortalité est un don fait à ceux qui suivent la loi du Seigneur. Parce que vivre de ses commandements, c'est vivre en plénitude. C'est être pleinement accordé à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est vivre dans l'amitié avec lui. C'est vivre dans l'alliance. C'est demeurer dans son amour, ce que le Christ répercute absolument dans le grand discours de la scène chez saint Jean.
Alors justement, si on avance, qu'est-ce que vous nous dites au regard donc des recherches faites par l'École biblique de Jérusalem et de ce que dit donc la Bible dans ses traditions, puisque c'est une forme de synthèse, votre dictionnaire, qu'est-ce que Jésus vient révéler de plus et qu'est-ce que le travail historico-critique, entre guillemets, permet de dire aussi sur ce sujet ?
Alors, ce que Jésus apporte, bien entendu, c'est qu'il dit qu'il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire que la vie, elle est en lui comme en sa source. C'est-à-dire que, comme il le dit chez saint Jean, tout comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et ça, c'est tout à fait, c'est très important pour comprendre pourquoi le Christ est ressuscité. C'est parce que sur lui, la mort n'avait aucun pouvoir. Elle n'a pu prendre possession de lui que de façon transitoire. Mais il y a en Jésus la source même de la vie qui est présente, et donc qui ne peut pas être entravée définitivement par la mort. Et ça c'est vrai, évidemment, dans sa divinité. Ça rejaillit dans son humanité, qui est passé par la mort, mais qui ressuscite. Après, du coup, la notion de la vie éternelle doit être reliée avec la promesse de la vigne et des sarments, en vivant dans le Christ, en vivant de ses sentiments. Eh bien, on vit de sa vie à lui et donc on ressuscite déjà avec lui. C'est ce que nous donne le baptême.
Alors juste, je vous taquine une dernière fois, mais là, c'est des choses qu'on peut connaître par ailleurs. Le travail de recherche, là, qu'est-ce qui vient peut-être éclairer d'une manière plus complète sur ce sujet ?
Alors,
le travail de...
Oui, je dirais là-dessus, si vous voulez, l'entrée telle qu'elle est ici, elle montre que ce sont les conceptions du judaïsme lui-même. Oui. C'est dans le judaïsme, c'est la réflexion du judaïsme environnant qui permet de comprendre l'annonce par Jésus de la vie éternelle. Ça, c'est tout à fait déterminant, parce que si Jésus était venu annoncer la vie éternelle comme ça, je sais pas quoi, comme une espèce de promesse vague et pas fondée, ben, on n'aurait aucune raison de le croire. Ce qui fait qu'on peut le croire, c'est parce qu'il prolonge une pensée qui est enracinée dans l'expérience même, hein, et dans l'expérience de tout un peuple, c'est-à-dire son expérience et son espérance. En vivant de la loi de Dieu, nous vivrons pour toujours. Il n'y a pas de raison que ceux qui obéissent au Seigneur meurent. Ou s'ils meurent, ça ne peut être qu'un passage. De ce point de vue-là, il est important de faire le pont, si vous voulez, entre cet enseignement moral du judaïsme et l'enseignement moral de Jésus, hein, qui est celui qui est synthétisé dans le sermon sur la montagne, dans les Béatitudes, parce que Jésus proclame bienheureux, et bienheureux, forcément, la béatitude implique l'immortalité. Il ne peut pas y avoir de béatitude qui, à un moment, s'arrête sur la mort.
Eh ben, merci beaucoup, Père Renaud-Sy, de nous avoir accompagnés pour découvrir ce dictionnaire Jésus. La presse et les médias en parlent. Et nous, on a fait notre part. Un grand merci d'avoir fait un détour par nos studios. Je rappelle une dernière fois le titre « Dictionnaire Jésus » en partenariat avec l'École biblique de Jérusalem, paru aux éditions Bouquin. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.